Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Reprenons donc cette analyse et l'idée de cet ultime chapitre, ce serait de penser que les spectateurs ou les lecteurs de l'Angleterre de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe siècle avaient une familiarité avec le texte de Cervantes qui permettait évidemment de déchiffrer immédiatement dans l'intrigue représentée dans The Double Falsehood une adaptation de la nouvelle de Cardenio, avait donc une familiarité qui pouvait leur venir de cette série d'images qu'avaient vues ceux qui avaient soit acheté des estampes séparées, soit possédé une édition illustrée du Quichotte, mais qu'au-delà même des lecteurs ou spectateurs de Théobalde, dans un monde social plus large, il y avait une circulation forte du livre sous la forme d'éditions abrégées. Et je crois que c'est un point important parce qu'on oublie souvent que des textes du XVIIe ou du XVIIIe siècle ont été connus par les lecteurs, non pas dans les éditions telles que nous les lisons, mais dans toute une série d'éditions abrégées, les unes pouvant appartenir au répertoire de circulation la plus populaire des textes, et les autres dans des éditions abrégées qui, sans nécessairement s'adresser aux plus humbles des lecteurs, donnaient dans une forme réduite et contractée des œuvres longues ou trop longues à lire. Alors, premier élément dans cet exposé, les éditions les plus abrégées que l'on rencontrerait en Angleterre et que l'on désigne sous le titre ou le nom de chap books, c'est-à-dire les livres vendus par les chapmen, les colporteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 1620, s'est ouvert en Angleterre un marché large pour les livres vendus aux plus humbles des acheteurs et des lecteurs, grâce à la distribution par les réseaux du colportage, à partir de Londres et dans les villes ou les villages anglais, un marché qui a été construit à partir d'une offre, celle d'un répertoire de livrets de colportage proposé par un certain nombre de libraires de Londres qui auparavant avaient fait leur fortune dans le commerce d'une première forme d'imprimer de large circulation et très profondément populaire qui était celui des Broadside Ballads, c'est-à-dire de ces textes en vers, ballades, publiés sous en la forme de deux colonnes, d'un seul côté d'une feuille d'imprimé, d'où le nom de Broadside ou Broadsheet, qui se pouvait coller contre le mur. C'est-à-dire ici un marché avec des ballades soit séculières, soit pieuses et religieuses, qui avaient, dès le XVIe siècle, été une des formes les plus importantes de la circulation qu'on va appeler populaire de textes. Et enrichi par ce commerce, un certain nombre des libraires-éditeurs qui s'étaient spécialisés et avaient fait fortune dans les Broadside Ballads ouvrent, à partir des années 1620, un nouveau marché avec la publication à très bas prix et dans des formes souvent brèves d'un répertoire textuel. Et ce répertoire des chapbooks comporte une certaine rigidité dans les classes d'objets imprimés qui sont proposés aux lecteurs. D'une part, les small books, et là je reprends le vocabulaire des listes imprimées des livres eux-mêmes, telles qu'on les rencontre dans les éditions. Les small books qui sont des livres de petit format, en général hindu-odécimo, hindus, et qui comportent 24 pages, c'est-à-dire en fait une feuille et demie d'imprimerie. Et les small books ont ce format rigide de 24 pages en format hindus. La deuxième classe, ce sont les double books, qui sont aussi de 24 pages, mais en format in quarto, ce qui nécessite trois feuilles d'imprimerie. et puis les histories, qui peuvent être des livrets un peu plus épais, entre 32 et 72 pages, généralement en format in quarto, mais parfois même plus long encore. On a donc là des livres qui ont la caractéristique d'avoir une formule éditoriale rigide, small books, double books, histories, qui sont vendus par colportage, les colporteurs s'approvisionnant à Londres et parcourant la campagne ou la province anglaise, et dont les textes sont donnés par des adaptations, abrégements, de textes qui appartiennent à des genres, à des traditions, à des dates très diverses, ce qui fait de ce répertoire des chapbooks un corpus de textes et d'éditions très parallèle avec celui qui a été si souvent étudié ou réétudié de la Bibliothèque Bleue en France. Et leurs lecteurs, autant qu'on puisse s'en approcher, comme l'a fait dans un livre célèbre Margaret Spufford, sont des lecteurs qui appartiennent à tous les états sociaux, y compris les plus humbles, puisque ces chapbooks, particulièrement les small books, sont vendus un penny, d'où le nom aussi de penny books qu'ils prendront dans la tradition bibliographique. Et donc, une très grande diffusion, on peut en regardant le nombre total d'éditions et le nombre supposé d'exemplaires auxquels elles correspondent, penser que vers 1660, il y avait un chapbook disponible pour 12 familles en Angleterre. Donc une très grande et profonde distribution de l'imprimé et d'un répertoire de textes dans le monde social anglais le plus large. Alors, dans ce répertoire, on y trouve, comme dans le cas de la Bibliothèque Bleue, des romans de chevalerie, soit des romans de chevalerie qui sont des adaptations et des raccourcissements des textes médiévaux, comme Guy of Warwick ou Bevis of Hampton, soit des adaptations ou abrégements de romans de chevalerie plus récents, les traductions en anglais de Amadis de Gaulle, de Palmerine of England, de Don Belianis of Greece, ou bien des textes anglais du 15e ou du 16e siècle qui les imitent, les Seven Champions of Christendom, les sept champions de la chrétienté, Parismus, Prince of Bohemia, ou The Famous History of Montelion. Donc il y a tout un corpus de romans de chevalerie, anciens ou récents, anglais ou traduits, et il n'est donc pas étonnant que dans le répertoire des chapbooks soit entré le chevalier qui était à la fois le dernier et le critique de ces chevaliers des romans, c'est-à-dire Don Quichotte de la Manche. Deux chapbooks peuvent illustrer ce propos. L'un, malheureusement, je n'ai pas la page de titre. C'est un small book, 24 pages, format in-12, qui a été publié à la fin du XVIIe siècle par l'un des libraires spécialisés dans ce marché, qui s'appelle George Conyers, et dont la boutique à l'enseigne du Golden Ring, l'anneau d'or, se trouvait à Ludgate Hill, pas très loin de la cathédrale de Saint-Paul, qui était un des lieux où avaient été installés de nombreux libraires-éditeurs, mais ce qui est pour un éditeur de chapbooks une localisation un peu bizarre, puisque la plupart préféraient être sur le pont de Londres, ou bien proche du marché de West Smithfield, qui étaient les deux lieux où venaient s'approvisionner les colporteurs avant de partir sur les chemins ou les routes d'Angleterre. Et si vous voulez avoir une image plus forte ou plus vivante de ces colporteurs, dans ce cas un colporteur de ballade, on peut se référer aux deux derniers actes du conte d'hiver de Shakespeare, The Winter's Tale, dans lequel le colporteur Autolycus vend et chante les ballades mêlées aux marchandises qui sont les siennes auprès des paysans imaginaires de la bohème des deux derniers actes du Winter's Tale. Le long titre de ce chapbook, qui n'est pas celui-ci, je devrais le retirer pour ne pas créer confusion, ça est « The Famous History of Don Quixote de la Mancha », intéressant, puisque tous ces chapbooks ou toutes ces adaptations vont reprendre le terme de history, qui est une sorte de fidélité avec ce que Cervantes disait lui-même de son texte, Una Historia, et fameux, c'est-à-dire qu'un pré-savoir est déjà plus ou moins évoqué dans ses titres. L'histoire a tellement circulé qu'elle est devenue illustre. Et ensuite, le long titre oppose ce qui est les exploits du chevalier, qualifié de strange, de wonderful, extraordinaire, étrange, particulier, avec les rencontres supposées qu'il fait avec des armées, des géants, des châteaux enchantés, des chevaliers, opposant donc ces wonderful exploits du chevalier aux merry humors, aux traits amusants de son écuyer Sancho. Et sur la page de titre, le livre est dit « pleasant and profitable », c'est-à-dire plaisant parce qu'il est divertissant et profitable, utile, parce qu'il est un avertissement. Alors, c'est ce même format et cette même rhétorique que l'on trouve sur le second chapbook que j'ai pu étudier, qui est 24 pages, in 12, 1695, une édition très abrégée, puisqu'on va faire tenir le Don Quichotte en 24 pages est un exploit assez remarquable. L'éditeur est Green, qui, dans la boutique, vous voyez l'adresse, The Sun and Bible, au soleil et à la Bible, est situé là, sans surprise, on London Bridge, lieu de concentration d'une grande partie des éditeurs des chapbooks. Le titre est une variation sur celui qu'on a déjà rencontré, The History of the Ever-Renowned Knight Don Quixote de la Mancha. On retrouve des history, et en gros, avec cette ambiguïté, effectivement, qui va toujours être attaché au Don Quichotte, c'est-à-dire le fait de se présenter comme une histoire, bien sûr a un effet parodique, puisque cette histoire supposément réelle, et les attestations sont multipliées dans le texte pour donner à croire qu'il s'agit vraiment d'une historia, mais en même temps, et tout lecteur avisé voit bien qu'il y a là une parodie, une ironie, un jeu avec le genre. Néanmoins, la catégorie de historia, histoire, history, va rester attachée au Don Quixote de la Mancha. Et dans un de ses séminaires, Fernando Barossa rappelait que dès l'origine, cette ambiguïté est présente, puisque le censeur auquel avait été confiée la censure, c'est-à-dire en fait l'approbation finale du Don Quichotte, était un chroniqueur des Indes, Herrera, comme si la présentation du texte comme historia pouvait justifier que l'on nommât un historien comme censeur du livre. Donc on a cette maintien de cette catégorie, et vous voyez clairement détaché, the history du chevalier déjà illustre à jamais, Ever Renowned Knight. Et là encore, même structure de titre pour attirer l'attention du lecteur. D'un côté, le chevalier, c'est Wonderful and Admirable Achievements and Adventures, les admirables et extraordinaires hauts faits et aventures. Et d'autre part, les Pleasant Humors, des traits d'esprit, des traits comiques de son fidèle, trusty squire, écuyer. Et on voit que là, la page de titre ne joue plus sur le registre de ce qui était profitable, laisse de côté l'aspect moral ou enseignant du texte pour centrer sur being very comical and diverting. Donc, une histoire qui est comique et divertissante. Un bois gravé qui représente évidemment la scène qui était devenue emblématique partout, mais en Angleterre, dès avant la traduction de Shelton, qui est la scène du moulin à vent qui jette, emporte Don Quichotte dans les airs et le jette à terre. Et dans une analyse préalable, j'avais montré comment cette allusion au Don Quichotte est une des premières traces de la présence du roman dans l'horizon littéraire anglais, et on la trouve dans des pièces de théâtre dès 1607-1608, c'est-à-dire avant la traduction de Shelton et avant même la, ce que dit Shelton, c'est-à-dire qu'il avait traduit le livre en 1607-1608, donc avant une possible circulation manuscrite de cette traduction. Dans ces 24 pages, le livret condense en 5 chapitres la première partie du Quichotte et ajoute un sixième chapitre qui lui est dévoué à quelques épisodes de la seconde partie, la rencontre de Don Quichotte avec le duc et la duchesse, l'aventure de la comtesse Trifaldi et la chevauchée de Don Quichotte et de son écuyer sur le cheval de bois Clavileño. Et le livre est rythmé par des bois gravés insérés à l'intérieur du texte, le départ de Sancho, le moulin à vent qui est repris à l'intérieur après avoir été utilisé sur la page de titre, Sancho jeté en l'air dans sa couverture lors de passage à l'auberge, le couvoir funèbre, c'est-à-dire en fait la charrette des comédiens, et le fameux Clavileño de la seconde partie, c'est-à-dire le cheval de bois. Et le texte, très raccourci, évidemment, s'ouvre par une très longue phrase, je la traduis comme plus ou moins fidèlement, « Parmi d'autres personnes réputées, dont les actions ont assuré l'immortelle renommée dans le monde et qui surprennent et émerveillent, avec émerveillement et étonnement, pardon, tous ceux qui lisent la relation de leurs extraordinaires prouesses, il n'en est pas de plus remarquable que Don Quichotte, le sujet de cette histoire, qui était un gentleman qui vivait dans un ancien village de la Mancha en Espagne, un homme si extrêmement adonné à la lecture des romans et d'autres livres traitant de la chevalerie errante, qu'il résolut finalement de la mettre en pratique lui-même et de se faire lui-même plus fameux que ses héros dont il avait lu les romanesques légendes, desquels il avait une si haute opinion que toujours il parlait d'eux avec la plus profonde révérence et il prenait très mal d'entendre mettre en question la vérité de ce qui avait été conservé de leur louange. Oui, si mal, si grande était sa crédulité en ces choses qu'il allait jusqu'à soutenir la véracité de l'histoire de Tom Thumb, c'est-à-dire de Tom Pouce. Alors c'est un texte intéressant parce que d'une part il se substitue à la fameuse première phrase du Quichotte, « Un lugar de la mancha del cual no quiero acordarme », et d'autre part il donne un résumé de l'essentiel de l'intrigue, ce chevalier, cet gentleman totalement absorbé par ses lectures, et il crée un rapport par cette finale allusion. Tom Pouce ou Tom Thumb est un petit chevalier de la légende arthurienne auquel était dédié un certain nombre de chapbooks. On voit donc que il y a une anglicisation du texte pour le rendre présent dans un horizon de réception du lecteur anglais et en particulier des lecteurs des chapbooks. Et cette tactique textuelle continue dans les 24 pages du chapbook, par exemple au chapitre 6, c'est-à-dire lorsque le curé et le barbier brûlent les livres de Don Quichotte, la réécriture pour le chapbook ne conserve qu'un titre qui était présent dans l'original castillan et sans doute dans les traductions anglaises, c'est le Don Belianis de Grèce. Tous les autres titres, d'ailleurs très peu nombreux, font allusion à des textes dont il n'est pas parlé dans l'original de Cervantes. L'Orlando Furioso, King Arthur, qui est aussi un livret de chapbook, de colportage, qui a le roi pour héros et qui a été publié en 1660 par Francis Coles, et d'une manière vraiment symptomatique, une allusion au Knight of the Burning Pestle. C'est-à-dire, bon, peut-être qu'il y a un jeu avec Burning, ses livres sont brûlés et que le terme apparaît dans le titre, mais c'est une référence évidemment à quelque chose qui est totalement absent de Cervantes. C'est la pièce représentée soit en 1607, soit en 1611 sur le théâtre des Blackfriars, The Knight of the Burning Pestle, le chevalier au pilon flamboyant, ou à l'ardent pilon, ça dépend des traductions françaises, et qui n'a guère connu de succès sur le théâtre, mais qui a été publié en 1613, anonymement, et repris en 1635, en étant alors attribué sur la page de titre à Beaumont et Fletcher. Et il serait intéressant, évidemment, de faire retour au rapport existant, non seulement dans le chapbook, puisque le Knight of the Burning Pestle, possiblement inspiré par Don Quichotte, se trouve dans la bibliothèque de Don Quichotte et est brûlé dans cette édition anglaise. C'est un jeu assez subtil et en même temps qui anglicise pour le lecteur qui n'est pas au fait de toutes ces subtilités les livres que possédait Don Quichotte. Mais on pourrait revenir évidemment sur le parallèle entre Don Quichotte et The Knight of the Burning Pestle, puisque cela pouvait être une des références à l'intérieur de laquelle avait pu se situer le History of Cardenio par Fletcher et Shakespeare, représenté en 1613. Et donc, j'avais, dans des séminaires précédents, traité cette question et ce rapport, puisqu'il y a un parallèle qui s'établit entre l'Hidalgo de la Manche devenant chevalier errant, et d'autre part le garçon d'épicerie de l'ombre, Raph, devenant grocer errant, épicier errant, à l'intérieur de cette pièce, le Knight of the Burning Pestle, qui n'avait pas eu de succès, ce qui pouvait peut-être aussi expliquer une possible absence de Don Quichotte de la pièce de Beaumont et de Fletcher et Shakespeare, dans la mesure où cet échec pouvait être lié, on l'avait dit, avec un retour à une idée de la chevalerie liée à l'idée de croisade portée par le fils héritier du roi, décédé en 1612. Et d'un autre côté, ce texte devenu une lecture après son échec sur les planches, avec l'édition de 1613 et avec l'édition de 1635. Et d'autre part, on pouvait faire un parallèle entre le Grocer Errant et le Caballero Andante, dans la mesure où tous les deux lisaient les mêmes textes, en particulier le Palmerine of England, qui avait été traduit en 1596 et qui était entré dans une forme abrégée, comme je le rappelais, dans le catalogue des chapbooks publiés par les libraires londoniens spécialisés dans ce marché. Dans ces chapbooks, les deux que j'ai mentionnés, celui dont vous avez la page de titre sous les yeux, l'histoire de Cardenio est totalement abandonnée. Un des effets de la contraction extrême du texte, 24 pages, est de laisser de côté tout ce qui s'éloigne, s'écarte de ce qui a été donné comme résumé dès la première phrase du chapbook, c'est-à-dire la folie de Don Quichotte liée à ses lectures qui l'entraînent à imiter les chevaliers dont il a lu les exploits. Mais les chapbooks, c'est-à-dire la forme la plus radicale des abrégements, ne sont pas les seules versions abrégées de Don Quichotte dans l'Angleterre de la Restauration, c'est-à-dire après 1660 et du XVIIIe siècle. Deux exemples, et qui pouvaient évidemment être présents dans l'horizon d'attente des spectateurs ou lecteurs de la pièce de Théobald et dans son propre esprit. 1689, on a ici le libraire Benjamin Cryle, dont l'enseigne est à la boutique est à l'enseigne du Peacock and Bible, le pan et la Bible, installé près de la cathédrale Saint-Paul, comme de nombreux des libraires éditeurs, et qui ne sont pas des spécialistes du marché des chapbooks. Ici, on a un volume hindous, de très petite taille, mais près de 200 pages, intitulé, comme vous le voyez, The History, The Delightful History of Don Quixote, the most renowned baron of Mancha. Donc, ici, le Don Quichotte est devenu un baron, et le titre joue, mais en développant sur ce contraste entre l'histoire délicieuse de Don Quichotte et délicieuse du fait de ses noble achievements and surprising adventures, his daring enterprises and valiant engagements, donc au fait, aventures, entreprises, engagements, et qui sont qualifiés de surprising, daring and valiant. Et opposé à ce registre, les comical humors, là la formule s'est pratiquement fixée de manière répétée d'édition en édition, les traits comiques de Sancho, avec le fait que s'ajoutent et toutes les autres matières qui conduisent à l'illustration de cette celebrated history, no less pleasant than gravely moral. On voit un retour sur la page de titre de la double, du double registre du Quichotte. D'un côté, évidemment, un texte plaisant, divertissant, amusant, mais d'autre part, un texte sérieusement morale, une histoire sérieusement morale, parce qu'elle est un avertissement, une mise en garde contre les séductions de la fiction, avec cet aspect paradoxal, évidemment, de tous ces titres qui donnent à lire une histoire plaisante présentée comme étant justement une histoire qui met en garde contre les séductions de la fiction qu'il propose au lecteur. La nouveauté donc n'est pas sur cette page de titre, mais elle est dans une épître dédicatoire adressée à une certaine Lady S par l'auteur, et où l'auteur justifie la stratégie de l'abrégement. D'un côté, il affirme que le texte qui est ici nouvellement imprimé est bien « the same » dans Quichotte que par le passé, et je cite, « qui estime et révère la même Dulcinea, qui est monté sur la même Rosinante, qui prend les mêmes routes et est servi par le même square. C'est bien la même histoire, the same history. Mais une histoire qui finalement est plus accomplie, parce que, dit le texte, il a laissé derrière lui beaucoup de ce qui était ennuyeux, tedious, obsolète ou moisi, musty, et bavard, proverbing, pensant à tous les proverbes qu'enchaînent les uns après les autres Sancho, et a réduit sa matière à quelques mots. Et l'histoire est donc une histoire qui concentre, en abandonnant ce qui est vieilli, inutile, bavard et finalement ennuyeux, dans l'original espagnol ou dans ses traductions. La préface affirme que dans cette édition, Don Quichotte est un active and not talkative hero. C'est quelqu'un qui agit et non pas qui parle, et qui does more than he says, et qui fait plus qu'il ne discourt. Et donc, du coup, la stratégie de réduction du texte est de supprimer les longs discours échangés entre les personnages, à commencer par Don Quichotte et proverbing Sancho qui parle que par proverbe, et le préfacier conclut ainsi: ce que nous avons donc évité est seulement la verbosité, garrulity, ce vice du raisonneur avisé, that vice among the thinking wise we have avoided. Donc une réécriture qui se veut dans un sens fidélité non pas au texte de Cervantes, mais fidélité à ce qui dans le texte est le plus aigu, par exemple les actions et non pas les discours. Et dans cette même épître, l'auteur, qui signe par ses initiales ES, rappelle que la dédicataire a reçu avec bienveillance un précédent livre de lui, Something of Another Kind Out of the French, qu'il a tiré du français. Et de fait, dans la liste des livres qui sont publiés par Crail et qu'on rencontre dans l'édition, Et j'attire l'attention sur le fait qu'on peut faire des commentaires intéressants lorsqu'on lit dans les éditions ce qui apparemment n'a aucun rapport avec le texte, qui sont les publicités que se font les libraires eux-mêmes en imprimant des listes des livres et parfois des descriptions des livres qu'ils sont en train, qu'ils considèrent comme des nouveautés. Ici, il y a effectivement, par le même, by the author of Don Quixote, un livre qui s'appelle Intrigues of Love, les intrigues d'amour, ou les amours à la cour de France durant le règne de ce prince amoureux et guerrier, Henri IV, surnommé le Grand. Et les autres nouveautés annoncées par Benjamin Creil sont intéressantes parce qu'elles permettent de situer l'horizon de publication. Très souvent, on n'a aucune indication sur qui a lu tel ou tel texte, mais par la contextualisation dans le catalogue des nouveautés ou des livres édités par un libraire éditeur, on peut imaginer un horizon de réception où on peut imaginer une destination. Et ici, son catalogue comprend des nouvelles et des histoires tragiques, comprend des livres de médecine pratique, dont deux du chirurgien de la Reine de France pour guérir les maladies vénériennes, des livres de piété et des livres de vulgarisation, England's Chronicles ou bien A Geographical Dictionary. Donc on peut penser que même si certains genres sont communs avec le répertoire des chapbooks, le catalogue est différent dans son orientation et d'autre part, les prix des livres qui sont indiqués sont sans commune mesure avec ceux des chapbooks. Je disais que the small books peuvent être vendus un penny ou quelques pence. Dans le cas des livres, les moins chers ici sont à un shilling, donc 12 fois plus cher. La réécriture revendiquée par l'auteur, réécriture abrégée, transforme profondément le texte de Cervantes à l'intérieur de cette fidélité à l'histoire. La bibliothèque épurée est bien celle du Don Quichotte. Les quelques titres mentionnés sont ceux de l'original et non pas des titres inventés et anglais comme dans le chapbook. Mais néanmoins, il y a tout commentaire entre le curé et le barbier sont supprimés. Lors des retrouvailles entre les jeunes amoureux, la scène que nous avons vue représentée presque dans toutes les éditions illustrées, l'auteur anglais intervient et déclare « Je ne vous entretiendrai pas ici avec les multiples et longs discours entre Mrs. Dorothea et Don Ferdinand, mais j'irai en hâte au résultat de la rencontre, à savoir que Don Ferdinand retrouve l'objet presque oublié de son mariage et que l'heureux Cardenio se réjouit avec son incomparable Lucinda. Quelques lignes suffisent là, donc c'est mon commentaire, quelques lignes suffisent là, où Cervantes a déployé supplication, repentir, pardon, à travers de longs échanges, en style direct, et composés comme des répliques de théâtre. Et un peu plus loin, dans les scènes nombreuses qui adviennent, dans l'auberge, une fois les amoureux ou époux rassemblés, l'auteur anglais de l'adaptation, de l'abrégement, déclare « Le fameux Sid Ahmet et Ben Chedéry, l'auteur supposé du Quichotte, de l'autorité duquel dépend tellement la vérité de cette histoire réelle, a rempli ici, stuffed, a bourré presque chaque page avec de nouvelles aventures advenues dans l'auberge. Mais nous, par souci de brièveté, passerons directement aux deux dernières qui sont effectivement très remarquables. » On voit donc qu'à la fin du XVIIe siècle, ce public anglais qui est amateur de novels ou de tragical histories, parce que dans le catalogue, comme je le disais, on trouve God's Revenge Against Murder and Adultery expressed in 30 tragical histories, la revanche de Dieu contre les meurtriers et les adultères, exprimée dans 30 histoires tragiques, ou bien delightful novels exemplified in 8 choice and elegant histories, des nouvelles plaisantes, délicieuses, exemplifiées dans 8 histoires bien choisies et élégantes. Il y a donc un goût très clair pour les nouvelles comme genre, c'est-à-dire des fictions brèves, qui correspondaient aux histoires tragiques dans la tradition italienne ou française et qui pouvaient correspondre à ces novels à l'intérieur d'histoires plus longues qui les contenaient. Et donc, le Don Quichotte pouvait paraître bien long par rapport à ce goût pour des récits plus brefs, avec ces immenses échanges de paroles et aussi ces événements multipliés, surtout par exemple dans la seconde partie, à partir du moment de la rencontre dans l'auberge. Et du coup, longueur et une certaine obscurité des thèmes même des dialogues pouvaient détourner de la lecture. Et de là, l'imposition dans cette édition de 1689 d'une modalité de publication qui n'est aucunement propre à Don Quichotte et qui est la réduction, la contraction souvent drastique des épisodes d'un très long récit et aussi la transformation de ce qui peut être échange à la première personne dans le texte en une narration qui est faite par un narrateur et non plus par les personnages eux-mêmes. Je crois que cette réécriture de Don Quichotte est doublement intéressante. D'une part, elle est intéressante parce qu'elle correspond à un thème fondamental qui est celui de la volonté de réduire ou de fragmenter les œuvres pour leur assurer une circulation au-delà de leur original. Et on pourrait évidemment ranger dans cette catégorie tous les recueils de citations, d'extraits ou des états abrégés des textes. Et de l'autre côté, elle est intéressante parce qu'elle va être la matrice pour des formes de publication plus tard, au milieu du XVIIIe siècle, des romans si longs, tels que ceux de Richardson, qui vont circuler largement sous forme soit d'anthologies d'extraits, et d'ailleurs voulues en leur point de départ par Richardson lui-même, qui assure la circulation de Pamela, Clarissa et Sir Charles Grandison, les trois romans, sous la forme d'une anthologie des moral commonplaces que l'on rencontre dans ces textes, les lieux communs moraux, ou bien des formes de réécriture, alors elles non voulues par Richardson, et qui suppriment la structure épistolaire, qui écrivent la narration du point de vue d'un narrateur, et qui réduisent l'intrigue, elle aussi sans fin, de Pamela et encore plus Clarissa, à une brève ou relativement brève narration. Et ce qui est intéressant, je vais terminer avec le deuxième de ces abrégements, mais qui ne sont pas réduits à la dimension des 24 pages in-douze d'un chapbook, c'est le fait qu'en français, au XVIIe et plus encore XVIIIe siècle, souvent ces abrégés d'œuvres plus longues portaient le titre d'esprit. Et esprit, c'est un mot qui est propre aux techniques de la distillation. Distillation des alcools, distillation des parfums. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ce deuxième exemple, 1699, 10 ans après, un autre libraire-éditeur, Boddington, et la préface de To the Reader de cet abrégement désigne le texte présenté comme la quintessence de l'œuvre, la quintessence. Et on retrouve évidemment dans le mot de essence, la quinta essentia, qui était dans la théologie scolastique du Moyen-Âge, l'essence des êtres célestes, et qui devient un mot du langage de la distillation, c'est-à-dire le fait d'extraire ce qu'il y a de plus précieux, de plus rare dans un élément, et donc de, par la technique de la distillation, atteindre et rendre présente sa plus pure essence. Et donc c'est le terme de quintessence qui apparaît dans la préface, comme s'il y avait une sorte de référence inconsciente ou consciente à cette technique de la distillation, et présentant finalement ce texte comme un esprit du Quichotte. Alors, comme vous le voyez, comme à l'habitude, le titre long reprend pratiquement les mêmes mots transmis dans un autre ordre ou bien avec des synonymes et oppose les humeurs comiques de Sancho avec les Wonderful Adventures and Achievements de Cervantes, de Don Quichotte. Et d'ailleurs, en faisant passer dans le titre et pour les aventures de Cervantes, la formule qu'on avait vue sur un des chapbooks, « very pleasant and diverting ». Ce « diverting and pleasant » est attribué là, non pas à la totalité du livre, c'est-à-dire potentiellement aux stupidités ou mésaventures de Sancho, mais aux aventures et prouesses de Don Quichotte lui-même. Le texte indique, comme vous voyez sur la page de titre, que 11 épisodes sont illustrés par des gravures sur cuivre, et la première se rencontrant en face de la page de titre avec le fameux épisode des moulins, et ici traité un peu comme une roue de la fortune, puisqu'on voit que Don Quichotte arrivé au sommet et l'a précipité dans le vide au grand désespoir de Sancho monté sur sa mule ou sur son âne. Alors, ce qui est très aussi frappant dans cet ouvrage, c'est le contraste, on a déjà rencontré dans l'édition précédente, entre une affirmation de fidélité au texte dans son entier et la pratique éditoriale et de réécriture qui est celle d'un abrégement. Vous voyez que sur la page de titre, il est ainsi mentionné « being an entire history of them all the memorable transactions recorded of them ». C'est-à-dire qu'on revient avec deux fois détachant ce mot « histoire », que l'on insiste sur le fait qu'il s'agit de l'entière histoire et que le texte donne, sans en oublier aucune, toutes les traces ou tous les enregistrements, toutes les mémorables de... toute l'entière histoire de toutes les actions mémorables qui en ont été rapportées. Et sur la page de titre, « in two parts », comme l'original du Quichotte. Mais la préface, elle, prend distance par rapport à cette affirmation et indiquant que si l'histoire est complète, elle a été réduite à son essentiel. Vous avez dans ces quelques feuilles, le livre est en format in 12 avec 204 pages, ce qui correspond à 8 feuilles et demi d'imprimerie. L'allusion aux sheets, là, est aux feuilles d'imprimerie nécessaires pour l'édition. Vous avez dans ces quelques feuilles la première et la seconde partie de Don Quichotte, contractées à partir de l'original, les concetti ou les traits d'esprit rendus plus aigus, sharpened, et en cette forme réduite, rien de ce qui est digne d'être noté ne vous manquera dans la lecture. Et le préfacier continue, car bien que la quantité soit moindre, vous avez la qualité ou quintessence de tout ce qui est le plus raffiné et exact dans Don Quichotte, depuis qu'il a commencé à parler des langues différentes de celles de l'Espagne. Et le texte est divisé en deux parties, 8 chapitres qui correspondent aux 52 chapitres de 1605 et 9 chapitres qui correspondent aux 64 chapitres de la seconde partie de 1615. La préface, comme le poème liminaire, souligne cette universalité de Don Quichotte. Je cite « Don Quichotte de la Manche est à présent si hautement estimé qu'il peut se trouver... » Il a été trouvé dans la plupart des langages européens. Et le poème liminaire évoque le voyage de Don Quichotte. C'est Don Quichotte lui-même qui parle et qui dit qu'il a franchi les Pyrénées, allusion aux traductions de 1614 et 18 et à leur réédition, et qu'ensuite il a voyagé par la Hollande, 1657, et l'Allemagne. Et ici, la référence à la Hollande est évidemment la référence à la traduction de 1657, mais la référence à l'Allemagne est plus bizarre. La plus récente édition avant ce texte est de 1682, et c'est d'ailleurs la première édition intégrale en allemand publiée à Bâle et Francfort du texte de Cervantes. On connaît en 1669 une édition préalable, précédente, mais abrégée, publiée à Francfort, et circule on admet, mais sans certitude, parce qu'aucun exemplaire n'en a jamais été retrouvé, qu'une édition de 1621 ou 22 avait pu être la première édition en allemand, sans doute abrégé, du Don Quichotte. Mais on voit que la préface utilise cet argument de l'universalité conquise, référence à trois langues avec des références implicites aux traductions dans ces trois langues, et évoquant évidemment que le Don Quichotte lui-même dit qu'il a franchi la Manche, considérée comme Rubicon-like strait, comme un détroit pareil, semblable au Rubicon, et allusion à la traduction de 1612 et à toutes les traductions qui ont suivi. Donc, une histoire universellement connue qui rendrait inutile toute préface, pourtant il y en a une, et pourquoi ? Pour indiquer que le texte est donné à lire est la quintessence de l'œuvre. Et la préface revient sur l'histoire même du texte, rappelant assez curieusement qu'il est dû à « a grandee of Spain », un grand d'Espagne, comme si un auteur espagnol ne pouvait être qu'un grand d'Espagne, ce qui est de faire de Cervantes une sorte de chevalier plus aristocrate qu'il ne l'était lui-même. Mentionne le succès du livre, diffusé, dit la préface, à 30 000 exemplaires, et ici on voit que le préfacier a bien lu son Don Quichotte, puisque 30 000 exemplaires, c'est le chiffre que donne Don Quichotte lorsqu'il parle du récit de ses propres aventures au chevalier au manteau vert, El Caballero del Verde Gabán, qu'il rencontre au chapitre 16. Et il déclare, Don Quichotte, traduction, « C'est ainsi que, par mes valeureuses, autant que multiples et chrétiennes prouesses, j'ai aujourd'hui l'honneur d'être imprimé dans presque toutes ou la plupart des nations du monde. On a imprimé 30 000 volumes de mon histoire, et à ce train-là, si le ciel n'y remédie, il y a tout lieu de croire qu'on l'imprimera 30 000 milliers de fois. » Ce qui est, bon, cette hyperbole, cette exagération, mais c'est celle qu'a retenu avec les 30 000 exemplaires le préfacier anglais, et non pas l'estimation souvent citée, faite par Sanson Carrasco au chapitre 3 de la seconde partie, lorsqu'il dit « Maintenant, votre histoire circule à 12 000 exemplaires », signalant les villes dans lesquelles elle a été publiée. Mais omettant, évidemment, dans cette liste, la traduction en français et la traduction en anglais qui ont été publiées avant la seconde partie. Mais néanmoins, on voit donc qu'il y a là un accent mis sur l'universalité, un accent mis sur l'importance de la circulation du texte, et d'ailleurs, rappelle aussi cette préface, qui est un petit essai de critique textuelle ou d'histoire textuelle, qu'a circulé aussi une spurious second part of Little Worth, c'est-à-dire une seconde partie apocryphe et de bien peu de valeur, allusion à la seconde partie publiée sous le nom de Avellaneda en 1614, et la préface rappelle que le premier auteur, d'ailleurs, jamais cité, le nom de Cervantes n'apparaît pas, soit parce qu'il est si évident qu'il n'y a pas besoin de le nommer, me semble-t-il, soit parce que le préfacier ne renvoie un premier auteur sans nécessairement l'identifier à un nom propre, rappelant que ce premier auteur a dénoncé les absurdités de cette spurious, apocryphe, seconde partie. Et la préface, dernier trait intéressant, souligne la dimension morale de l'histoire, même si sur la page de titre, on a vu que ce qui était souligné, c'était le « pleasant and diverting ». Dans la préface, il y a l'idée que le texte est fondé sur « moral solidity », une grande solidité morale. Et pourquoi ? Parce qu'il est un avertissement, il expose la folie, et donne aux hommes le moyen de l'éviter. By exposing folly, that men might learn to shun it, to éviter, supprimer, éloigner. Et la supposée épitaphe qui conclut le texte, à la fin de du dernier chapitre, renvoie à cela. Le texte imagine que Don Quichotte est enterré dans « the Cathedral of Mancha », on ne sait pas bien où elle est, mais enfin, il y a une cathédrale de la Manche dans laquelle Don Quichotte est enterré avec ses ancêtres et avec une épitaphe qui dit « Sa fin est ce que le monde doit louer par-dessus tout pour mourir alors qu'il a vécu si fou en étant si sage. His end above the rest of the world must prize for dying though he lived as fool so wise. si sage. On voit donc qu'il y a un paradoxe ici qui est exploité de ce contraste entre qui fait de la lecture divertissante et amusante d'une fiction un texte de mise en garde contre les séductions et les dangers de la dite fiction. Si on entrait, mais j'en ai plus de temps, je vais terminer ici, dans l'analyse des abrégements du texte, on voit qu'ici, il y a une stratégie différente des Chabooks. Certains passages, et des passages qui sont donnés à la première personne, ou parfois même, comme dans le cas du chant de Cardenio, respectés dans leur littéralité, font que l'abrégement ne détruit pas les registres multiples de l'écriture de Cervantes, à l'inverse des Chabooks, qui réécrivent comme une narration ce qui est une série de monologues ou de dialogues. Et on voit ici que l'abrégement passe plutôt par la construction d'une série de collages, de scènes du Quichotte, sans transition, sans développement, sans les commentaires, mais qui essaye de respecter dans la version quintessentielle les différents registres de l'écriture de Cervantes. Il ne s'agit donc pas là de réécrire totalement en forme, en style de narration, mais de respecter en miniature ce qui est la variété de l'écriture et des registres ou des formes utilisées par Cervantes. Ce qui m'a attiré l'attention, qui est un hasard un peu heureux, c'est que Boddington, dans ce livre, fait la publicité pour deux des livres qu'il a publiés en même temps que ce Quichotte. L'un est un secrétaire, un recueil de modèles de lettres, The Experience Secretary, et l'autre est un texte qui a pour titre The Britannian Magazine or A New Art of Making Above 20 Sorts of English Wines. Donc, une nouvelle manière de faire 20 sortes de vins anglais et de les faire à partir de fruits, de fleurs, de plantes multiples, à l'exception du raisin. C'est-à-dire que c'était un texte qui disait comment faire du vin, alors même que le Parlement avait pris un décret qui limitait les possibilités de la distillation. C'est-à-dire que le texte a pour titre aussi « The Foundation of the Art of Distillation ». Et du coup, la référence à la quintessence dans la distillation textuelle trouvait un écho au moins éditorial et de librairie avec un autre livre qui portait trace d'une autre distillation, en ce cas-là, celle qui permet de faire des alcools sans raisin. Donc la conclusion, comme vous le voyez, ce serait de dire que lorsque la pièce de Théobald est représentée, il y a déjà une omniprésence de Don Quichotte depuis la Restauration, omniprésence due aux traductions. On a évoqué les rééditions de la traduction de Shelton. Il y a aussi les traductions de Phillips, Stevens, Motte, Ozell. Présence donnée par les suites d'illustrations, présentes dans les éditions, mais aussi donnée à voir dans des séries d'estampes séparées. Pensons à Hogarth. Présence, enfin, par les adaptations théâtrales, et particulièrement les deux que je citais, de Aphra Behn et de John Crown, du curieux impertinent. Il faudrait ajouter une pièce qui mériterait à elle seule toute une étude et tout un ou plusieurs séminaires, qui est la pièce de Thomas Duffy, qui s'appelle The Comical History of Don Quixote, qui a été représentée au Queen's Theatre de Dorset Garden et par la troupe à laquelle participait le plus fameux acteur anglais de la seconde moitié du XVIIe siècle et de la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire Thomas Betterton, un des possesseurs supposés d'un des manuscrits de Cardenio, à suivre l'histoire du texte telle qu'elle est narrée par Théobald dans le prologue de The Double Falsehood. Ce texte de fait, qui fait une large place aux aventures de Cardenio à l'intérieur de celles de Don Quichotte, est intéressant pour la raison finale et suivante. Il a été publié en 1694, mais il est accompagné, la publication du texte, de ce qui est dit sur la scène, est accompagné par un autre livret qui a pour titre « The Songs of the New Play of Don Quixote, set by the most eminent master of the age, all written by Master Durfee, Mr. Durfee. D'ailleurs, il est l'auteur des textes, des chants ou chansons, ou airs. Mais ces airs, la musique en a été composée par les plus éminents maîtres du moment. Et dans ce texte, qui, comme je le disais, fait bonne place à l'histoire de Cardenio, ce qui pourrait peut-être, et avec les noms de Cervantes, ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi Théobald a décidé de rebaptiser les personnages, Cardenio, Julio, Lucinda, Leonora, Fernando Enriquez, Dorothea Violante, c'est parce que, pour créer une différence, pour montrer que sa pièce, qui est d'un registre différent de la Comical History of Don Quixote, pouvait immédiatement s'en différencier par le fait que les personnages portaient de nouveaux noms, même s'ils étaient reconnaissables comme ceux de Cervantes, mais pas comme ceux de Durfee, qui était d'une trentaine d'années précédente. Dans cette pièce, deux compositeurs se sont partagés les airs donnés aux personnages, John Eccles et bien sûr Henry Purcell. Et c'est Purcell qui, au quatrième acte, a écrit un air pour Cardenio, entrant en haillon et avec une allure sauvage dans la Sierra Morena. Je crois donc qu'il y a, et c'est la conclusion de cette cours et de cet ensemble de cours de ce trimestre, que entre le Cardenio de Fletcher et Shakespeare de 1613 et le Giulio Cardenio de Théobald de 1727-28, nous aurions un autre Cardenio qui nous dit grâce à Durfee et nous chante grâce à Purcell son histoire, puisque dans la pièce, une fois son air écouté, dialogue s'instaure entre Cardenio et Don Quichotte, et Cardenio dit « And now, to satisfy your curiosity, sir, I will relate my story. » Et maintenant, pour satisfaire votre curiosité, monsieur, je vais vous dire mon histoire. Et une histoire qui nous a retenu cette année, l'année précédente, dans la mesure où elle a été conduite jusqu'à nous, cette histoire de Cardenio, peut-être moins par les chapitres de Cervantes, puisque souvent, ces chapitres, qui ne sont pas ceux de l'histoire principale, ont été ignorés ou oubliés par les lecteurs, mais une histoire qui nous a été donnée, transmise, et qui a été conduite jusqu'à nous par le mystère que ce travail essaye d'élucider, c'est-à-dire le mystère d'une pièce supposément shakespearienne et disparue. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.